rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Pendant ce mois de septembre, nous sommes avec Monseigneur Mika. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Nous rencontrons donc le nouvel évêque de Tarbes-Lourdes. La semaine dernière, nous avons un peu découvert son parcours, sa vocation et sa nomination comme prêtre après un parcours au séminaire de Toulouse. Séminaire de Toulouse dont vous avez été directeur et surtout, au même moment, à peu près, que vous deveniez formateur au séminaire, vous rentriez dans la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Pourquoi ? Pourquoi cette vocation supplémentaire, complémentaire ? Personne ne vous le demandait.
On aime dire qu'il s'agit d'une vocation dans la vocation. La vocation première et la formation première d'un prêtre sulpicien, c'est d'abord la vocation de prêtre diocésain et l'exercice de ce ministère, au moins pendant quelques années. Et puis, au cœur de cette vocation-là, une autre vocation apparaît, qui est d'orienter sa vie davantage au service des prêtres diocésains, mais des prêtres en général, parce qu'ils sont un maillon important dans le corps du Christ, dans le peuple de Dieu, pour que l'Église, définie au Concile comme étant sacrement du salut, sacrement du Christ, qui est le seul sauveur, dit la théologie, pour que l'Église fonctionne dans cette sacramentalité, eh bien, elle est configurée au Christ unique prêtre. Tous les baptisés sont configurés au Christ, prêtre, prophète et roi. Mais pour que ce sacerdoce-là fonctionne, il faut à son service un sacerdoce ministériel. Donc c'est le ministère ordonné, c'est le ministère des diacres, des prêtres, des évêques. Et donc, pour le bien de l'Église, pour que sa sacramentalité fonctionne au bénéfice de ses membres, évidemment, mais aussi du monde lui-même et de la création tout entière, il faut des prêtres. Et pour qu'il y ait des prêtres, il faut les former, il faut qu'ils soient heureux, il faut qu'ils soient des prêtres tels que l'Église conçoit ce que les prêtres doivent être. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui se consacrent à cela, à cette formation et à leur accompagnement. J'ai eu la chance, pendant ma formation, d'être sensibilisé à la mission de mes formateurs qui nous ont appris à être, je crois, des prêtres à peu près enracinés, fondés, heureux, disponibles pour le ministère de l'Église, pour le service de l'Église, des communautés chrétiennes, etc. Et donc, je sais pas, le désir de rejoindre ce corps particulier est apparu dans mon cœur et puis j'ai discerné ça, et puis voilà, puis j'ai formulé ma demande pour rejoindre la compagnie de Saint-Sulpice, qui depuis 1642 est un corps de prêtres diocésains détachés de leur diocèse pour être consacrés, corps et âme, j'ai envie de dire, au service des prêtres, pour le service des communautés chrétiennes.
Mais pourtant, tous les prêtres formateurs ne sont pas sulpiciens.
Absolument, et donc dans le dialogue avec l'archevêque de Toulouse à l'époque, Mgr Coligny, on avait envisagé les deux hypothèses. Il avait reconnu des dispositions à moi, en effet, qui, au niveau du conseil épiscopal de l'époque, avaient été repérées, pour envisager que je sois un jour nommé formateur au séminaire. Et donc, en effet, dans les équipes de séminaire, il peut y avoir des gens sulpiciens dont c'est la consécration première pour toute leur vie, et puis d'autres qui sont détachés pour exercer ce ministère pendant un certain nombre d'années. Bon. On fait le même métier, quand on fait une photo instantanée, on ne distingue pas l'un de l'autre, on est habillé pareil, on donne des cours de la même façon, on est directeur spirituel de la même façon, etc. Mais intérieurement, ça se joue différemment. Quand on y consacre tout son intérieur, toute sa vie, ça veut dire qu'on va se former aussi pour ça davantage, qu'on va prier aussi pour ça davantage, qu'il y a quelque chose qui va s'enraciner dans sa propre manière d'être prêtre. Et être perçu aussi par les autres prêtres. Et je vois bien que des demandes d'accompagnement spirituel de prêtres se sont exprimées sur la base de cette identité profonde de la personnalité détectée par eux.
Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la... Parce qu'au fond, on connaît mal les sulpiciens, on connaît mal cet ordre dans l'ordre, cette... Comment est-ce qu'il est né, dans quel contexte, et pourquoi est-ce que ce contexte, qui était un peu spécial, continue aujourd'hui ?
Le contexte, c'est celui de l'après-concile de Trente, qui lui-même avait été convoqué pour réagir à la réforme luthérienne, et qui avait demandé que les prêtres, dont la médiocrité avait été dénoncée par Luther, soient en effet mieux formés qu'ils ne l'étaient dans les schémas antérieurs. Bon. Plusieurs essais de formules de formation avaient pris naissance après la demande du concile, avec plus ou moins de bonheur, sans vraiment que ça marche tout à fait, etc. Puis au XVIIe siècle en France, il y a tout un mouvement à la fois mystique, spirituel, pastoral, missionnaire, et c'est dans ce contexte que vont naître les premiers vrais grands séminaires, qui sont les ancêtres de la formule des séminaires que l'on connaît aujourd'hui. Parmi ces fondateurs de séminaires, un curé de Paris, le père Jean-Jacques Ollier, a eu l'intuition d'une formule pour laquelle il s'est agrégé des prêtres volontaires attirés par cette même mission, tous prêtres diocésains, et à la différence des autres instituts tels que les Lazaristes, les Eudistes ou d'autres, il désirait ne se consacrer qu'aux seuls adultes qui rentraient au grand séminaire et non pas des enfants.
Il ne s'agit pas de détecter des vocations,
mais vraiment de former les adultes à quelques heures, à quelques jours, à quelques mois, à quelques années de leur ordination. Voilà. Et pour en faire des prêtres intérieurs. Un des leitmotifs de Jean-Jacques Ollier, c'est de dire qu'on entre dans la prêtrise par la porte de la vocation et pas par la porte de l'ambition familiale ou que sais-je, comme lui-même y était entré d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il se convertisse et qu'il devienne chrétien et prêtre après son ordination.
Ça fait paradoxe aujourd'hui.
C'est amusant de constater ces affaires-là, mais ouais. Voilà, ouais. Il faut situer dans le contexte de l'époque. Bon. Ouais. Et donc ce brave curé de Saint-Sulpice fonde une formule de séminaire où il veut que l'intérieur de ceux qui se préparent à recevoir l'ordination devienne l'intérieur même du Christ, bon pasteur. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très fort dans cette spiritualité dite de l'école française qui se développe au XVIIe siècle, où il s'agit d'adopter les sentiments du Christ, le cœur du Christ, etc. Et donc, pour les futurs prêtres, le cœur du Christ, unique prêtre et bon pasteur. Voilà. Et donc, tous les éléments de la formation sont centrés autour de cette identification progressive au Christ, bon pasteur de son peuple, donc de l'Église, donc des communautés chrétiennes et paroissiales, etc. Voilà. La formule se développe, plaît, ils fondent le séminaire attaché au territoire de la paroisse Saint-Sulpice à Paris, qui dépendait non pas de l'archevêque de Paris, mais de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, toute proche. Et donc, il y a été très libre de développer ses intuitions, à la fois spirituelles, pédagogiques et pastorales. Et puis, les évêques ont observé la chose, l'archevêque de Paris en a fait la publicité, et d'autres évêques lui ont demandé de les aider à fonder leur séminaire, à former sur place les formateurs de leur séminaire. Et c'est ainsi que, du séminaire Saint-Sulpice de Paris, sont partis des petits commandos de deux ou trois sulpiciens pour, au sein des séminaires des diocèses, à Viviers, à Nantes, à Lyon, etc., et puis progressivement un peu partout en France, ont formé les prêtres locaux à la manière de faire du séminaire Saint-Sulpice, avant de les laisser, de quitter le séminaire en question, de le laisser à la responsabilité de l'évêque local, eux de revenir au séminaire Saint-Sulpice à Paris, pour répondre à d'autres demandes d'ailleurs. Voilà. Et donc la compagnie a vécu ainsi pendant des siècles. Un premier groupe de trois sulpiciens parisiens ont été envoyés en Nouvelle-France au Canada en 1657, l'année de la mort d'Ollier. Puis en 1791, deux ans après le début de la Révolution française, un autre groupe de sulpiciens français ont fait la même chose à la demande des évêques américains vers Baltimore, où ils ont fondé le premier séminaire américain là-bas. Et puis voilà, c'est ainsi que, pendant des siècles et jusqu'au XXe, la compagnie avait un supérieur à Paris, qui était le supérieur et du séminaire et de la compagnie, avec deux délégués au Canada et aux États-Unis. Et puis à partir du XXe siècle, chacun de ces trois lieux, de ces trois pôles, ont envoyé des sulpiciens répondre aux demandes des évêques vers des pays dits de mission, pour ce qui est de la France, vers l'Afrique francophone et l'Asie en lien avec la France, le Vietnam, la Chine, etc. Pour le Canada, vers l'Amérique latine et le Japon, pour les États-Unis, vers l'Afrique anglophone.
Ce qui explique que quand vous avez été élu provincial, c'est provincial de France, Vietnam et Afrique, parce que c'est depuis la France que ces pays étaient desservis.
Exactement, donc j'étais provincial de France, mais la province de France, comme les autres provinces, c'est une province internationale.
La provinciale, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire prendre soin, c'est toujours pareil, être sulpicien, c'est prendre soin des prêtres. Donc prendre soin de mes confrères sulpiciens, d'abord. Donc, quel que soit leur âge, les candidats pour bien les accueillir, les former, discerner leurs motivations, leurs vocations, leurs aptitudes pour cette mission. Les anciens, leur veiller à ce qu'ils aient une retraite paisible, etc., confortable, comme n'importe quel responsable, j'ai envie de dire, de diocèse à l'égard des anciens de son diocèse. Bon. Et puis, le corps actif des sulpiciens de la province, être en relation avec eux, être en relation avec les évêques qui les emploient dans les séminaires ou d'autres fonctions au service des prêtres dans leur diocèse ou leur province ou leur pays, leur conférence épiscopale. Et donc, c'est rencontrer les uns, rencontrer les autres, établir des conventions, etc., mettre en place des formations pour les confrères, et aussi répondre, quelque chose qui s'est développé à la demande de ce nombre de conférences épiscopales, notamment en Afrique, avec mes confrères sulpiciens locaux, de bâtir des programmes de formation pour les formateurs des séminaires des pays, sans aucune ambition d'en faire des sulpiciens, mais de les initier à la formation basique d'un formateur de prêtres. Les évêques ont le souci de les envoyer faire des études de théologie à Rome ou à Paris, mais ils ont constaté que ça ne suffisait pas pour en faire des formateurs de prêtres, et ils nous ont demandé à Saint-Sulpice de compléter cette formation intellectuelle par la formation nécessaire pour en faire des directeurs spirituels, des gens aptes à travailler en conseil et de manière collégiale, à prendre des décisions, à transmettre à l'évêque des avis fondés, éclairés sur les aptitudes pour l'ordination, etc., etc.
Eh bien, c'est passionnant, merci de nous faire découvrir un peu mieux cet ordre,
avec très grand plaisir,
cette compagnie du Saint-Sulpice. Nous allons peut-être continuer un petit peu la semaine prochaine à découvrir cela ensemble. À la semaine prochaine.
Rencontre avec nos évêques.